Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Aujourd'hui, je suis avec le vice-président de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, Michel Dignard. Comment ça va?
Ça va très bien, merci beaucoup.
Et là, je voulais commencer un petit peu. Tu veux-tu te présenter? C'est qui ça, Michel Dignard? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette bébite-là?
Michel Dignard, c'est un agriculteur comme celle-là de grande culture.
Mm-hmm.
Mais j'ai commencé en agriculture avec dans vaches laitières. J'ai fait ça pendant 46 ans.
Mm-hmm.
J'ai fait des poules pondeuses. J'ai fait du lapin pendant 12 ans. J'ai fait du bleu, puis je fais encore du bleuet, de la framboise, puis du miel. Mais comme c'est là, je me concentre surtout en grande culture, maïs, soya, 1200 acres de maïs, puis soya.
OK, donc tu as pas mal vraiment touché à tous les domaines dans l'agriculture.
Oui, c'est ça. J'avais commencé, mon père était dans la production laitière, fait que moi, j'ai embarqué là-dedans. Puis là, ben, j'ai commencé un petit problème de santé. Mes enfants, les plus vieux, t'as pas intéressé dans les vaches à lait, et j'ai tombé dans la production d'œufs. Puis là, il fallait que je faisais un choix, je restais en production d'œufs, puis il y avait d'autres terrains qui étaient à vendre dans le temps. Fait que j'ai choisi le terrain, puis j'ai revendu mon quota. Ça fait que je me suis plus concentré dans la grande culture, comme c'est là.
OK, donc c'est vraiment plusieurs différents aspects qui t'ont fait changer de vache laitière aux poules, donc les produits avicoles, puis aussi ensuite aller à la grande culture.
Oui, j'avais tout le temps gardé les bleuets, puis les framboises, puis les abeilles. Mon père et ma femme aiment bien les abeilles. Fait que j'en fais en cours, je m'envoie la semaine prochaine sortir mon miel. Fait que là, c'est, en vieillissant, j'ai dit, il fallait que je choisisse. Fait que j'ai choisi la grande culture. J'ai été chanceux parce que le terrain que j'ai acheté, c'était avant que la valeur des terres monte. Puis je pense que j'ai fait un bon choix. Fait que là, je suis grande culture. Fait que c'est plus relax un peu qu'avec les animaux.
Puis aussi avec les abeilles, si on entend parler une fois de temps en temps, mais il y en a de moins en moins des abeilles.
Il y a moins en moins d'abeilles, mais il y a plus. Ben, ça, je ne sais pas. Il y a plus d'apiculteurs qu'il n'y a jamais eu.
OK.
C'est pas des gros. Les gros, il en reste. Il y en a encore, mais un petit peu moins. Mais juste dans la région de Prescott-Russell, je pense que le nombre de producteurs a doublé, en fait, d'abeilles. Parce qu'il y en a une, deux, trois ruches. Il y en a beaucoup de ça. Les abeilles, en grosse quantité, oui, ils disent comme à travers la province du Canada, ça baisse. Mais il y a des années que, même moi, j'avais 30 ruches, j'en ai perdu 25. L'année d'après, j'en avais 20, j'en ai perdu une. Ça joue avec la température, ça joue avec beaucoup d'affaires. Fait que...
Puis, est-ce que ça l'aide aussi, parce que maintenant, vu que tu es dans la grande culture, est-ce que tes abeilles y aident à faire pousser tes choses?
Non, les abeilles dans la grande culture, maïs et soya, c'est bon rien pour les abeilles. Ça, okay. C'est comme un désert pour nous autres. Mais mes ruches sont à différentes places, où est-ce qu'il y a bien, pas loin d'un village ou des bois, il y a beaucoup de fleurs, ça fait que c'est très bon. Non, le maïs et soya, ça donne, l'abeille, elle va se promener, mais ça donne absolument rien.
Ça donne. Si tu parles beaucoup on parle beaucoup des abeilles en ce moment parce que je savais pas t'en avais, puis je trouve ça très intéressant. Ça prend combien de temps? Tu sais, le miel qu'on voit dans les épiceries, dans les petites bouteilles d'ourson, puis tout ça, ça prend combien de temps à faire?
Les abeilles, comme cette année, on a eu un beau printemps chaud. Parce qu'une abeille, il faut que tu comprennes que quand il fait chaud, ils se promènent. Ils vont faire 3 km, 4 km. S'il fait froid, ils font 100 pieds. Cette année, c'est une bonne année. Fait qu'ils ont débuté au mois de mai.
Mm-hmm.
J'aurais pu sortir du miel, le premier miel, si tu commences au mois de mai, le 10 de juillet, tu peux déjà sortir une récolte de miel. Puis l'autre récolte, tu vas la sortir la première semaine de septembre. Fait que techniquement, ça prend quoi, mai, juin, 2 mois et demi, tu as déjà une récolte de miel. Quand tu as des belles températures, puis il fait chaud. Parce que s'il fait froid, tu vas passer tout ton été avant d'avoir du miel. Comme l'année passée, on n'a pas eu des belles températures, mais la première récolte de miel, les seules récoltes, c'était la première semaine de septembre. Parce qu'à cause qu'il fait froid, les abeilles restent alentour, puis ils s'occupent de la ruche, ils n'allent pas chercher de pollen. Fait qu'il n'y a pas une année qui est pareille. Comme cette année, là, c'est idéal. J'ai été vérifié la semaine passée, puis ça regarde bien pour une bonne récolte de miel.
Ah, ben c'est le fun. Puis est-ce que la saveur change selon les fleurs qui pollinisent?
Oui, parce que moi, j'ai un champ de framboises. Les abeilles, c'est comme des humains.
Mm-hmm.
On va commencer le printemps, ils aiment les pissenlits. Ensuite, c'est les fraises qui arrivent. Ensuite, c'est des framboises. Une abeille, si tu laisses un champ de fraises puis framboises, ils vont juste choisir des framboises. Puis les framboises puis les bleuets, ça fait un miel vraiment doux, plus sucré. que la fraise ou que les fleurs. Ensuite, quand les framboises, c'est fini, là, c'est des fleurs d'automne. Mais à partir du 1er septembre, là, les nouvelles fleurs, les vraies fleurs d'automne arrivent. Si tu n'as pas enlevé ton miel, tu vas avoir un miel beaucoup plus fort, un goût plus prononcé. Ça fait que c'est ça. C'est, oui, il y a du, vraiment, ça dépend où tu les mets. C'est comme moi, mes ruches qui sont autour de mes framboises et bleuets, le miel est bien plus sucré. Pourquoi j'enlève un miel au mois de juillet? Parce que c'est un miel plus clair, plus sucré. Au l'automne, c'est un miel normal. Fait que, oh oui, ça varie selon les fleurs qu'ils vont avoir.
Mais pourquoi qu'ils choisissent les framboises au lieu des fraises?
Parce que une framboise va fleurir plus souvent.
OK.
Et je pense que la framboise est plus sucrée. Fait que la fleur, d'une manière, est plus sucrée. Fait que l'abeille, c'est comme nous autres. Tu as le choix entre du salé et le dessert, mais tu vas aller sur le dessert, c'est meilleur. Mm-hmm. L'abeille, c'est la même affaire. L'automne, tu pognes du sarrasin. Un sarrasin, ça va faire un miel très foncé, très fort. Mais moi, j'ai déjà vu, j'ai pas enlevé mon miel assez vite. Puis 3 km de chez nous, je ne savais pas, il y a un producteur qui a semé du sarrasin. Les abeilles ont été directes là. Fait que tout mon miel il était foncé cette année-là. J'ai appris ma leçon.
Mais aussi, c'est pas mieux d'attendre que ton miel vieillisse, parce que des fois, on voit des histoires sur l'Internet de personnes qui déménagent dans une nouvelle maison, puis tout ça, puis ils trouvent dans les murs des ruches d'abeilles qui sont là depuis on sait pas combien d'années, ou tu sais, dans les vieilles fermes, puis tout ça. C'est pas mieux de le laisser vieillir, le miel?
Ah, que tu le laisses là pour 6 mois ou un an, la qualité de miel va être pareille. Il n'y a aucune...
Ah, il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence. Le miel peut être là 3 ans, il va goûter la même chose que quand tu l'as récolté. Le miel, je pense, c'est un des seuls aliments qui il va tout le temps rester bon. Mettons, après, tu vas garder un pot de miel, puis il va se cristalliser.
Mm-hmm.
Tu vas le faire réchauffer, puis il va revenir aussi beau qu'il était avant, puis aussi bon.
Okay.
Ah, tu peux le garder 3 ans, si tu veux, ton miel, puis il va être aussi bon, il n'y aura pas de différence.
Donc, il n'y a pas de différence de si tu le récoltes, mettons, après un mois, que si tu le récoltes dans 3-4 ans.
C'est ça. Mais dans 3-4 ans, le problème, si tu fais ça, les abeilles vont emplir les alvéoles. Si les alvéoles sont pleines, puis ils n'ont plus de place pour en faire, ils vont se faire un autre train, puis ils vont s'enlever de la boîte. Faut que tu leur donnes des boîtes vides avec des alvéoles pour qu'ils travaillent du miel. Parce que l'abeille, si la ruche est pleine, tu n'as rien fait, ils s'en allent. Ils ne resteront pas là. Fait que faut que tu les tiennes à la liste des travaillants. Puis si la boîte est pleine, moi j'ai été à son passé, j'avais 3 boîtes de haut.
Mm-hmm.
Ils sont rendus en 3e boîte. J'ai mis une 4e boîte de suite pour faire sûr qu'ils continuent à travailler dans cette boîte-là pour pas qu'ils s'en aillent.
Ah oui.
Ils vont s'en aller, ils appellent ça swarming. Je ne sais pas si on dit ça en français.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est la reine. Ils se forment une reine, puis un paquet d'abeilles, puis ils s'en allent de la ruche.
OK, donc ils n'agrandissent pas la ruche. Ils sont comme, OK, il n'y a plus de place ici. Nous autres, on s'en va.
C'est ça. Parce que tu mets 3-4 boîtes de haut.
Mm-hmm.
Là, ils vont faire du miel. Puis quand ils ont tout empli les racks, les sections des alvéoles, bien là, ils veulent qu'on s'en travaille. Ils veulent qu'on s'en chercher du pollen. Il n'y a plus de place. On s'en va ailleurs. Puis on va partir dans les murs de maison, de grange. Ils vont juste faire pendu après un arbre, quelque chose de moins.
OK, parce que des fois, tu vois dans la nature des gros nids d'abeilles. T'es comme, OK, eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont là, tu sais, pendus après un arbre.
Mais ça, c'est une chose qui a été, puis c'est à plein. Fait que ça, c'est un essaim qui a changé de place, puis là, il s'est refait là.
OK.
Ah oui, à coup, ils sont pleins, ils vont changer de place.
Puis un alvéole, c'est les trous qu'on peut voir
octogone, là, comme mm-hmm. l'hexagone. Puis c'est une chose de cire que tu mets dedans. Puis eux autres, ils vont faire à peu près 1/8 pouce. Ils vont bâtir l'alvéole.
OK, c'est eux autres qui bâtissent.
Tu fais juste mettre la c'est une feuille comme de cire.
Mm-hmm.
Puis eux autres, ils vont bâtir l'alvéole, chaque bord de la feuille de cire. Puis là, ils vont mettre un petit angle d'à peu près 10 degrés ou 5 degrés pour faire sûr, quand ils mettent le miel dedans, qu'il ne coule pas à terre. Ils sont à 6 mètres pour ça.
Wow! Et la cire, j'imagine, aide pour que le miel colle aussi.
Bien, c'est parce que ça leur fait que si tu veux leur mettre la vie facile, fait que la feuille de cire avec des petits dessins d'alvéoles.
Mm-hmm.
Fait qu'eux autres, ils vont juste continuer à le faire. Si tu ne mettras pas ça, ils peuvent le faire, mais tu es fait travailler 5 fois trop fort pour rien. Fait que tu leur mets la feuille, fait qu'eux autres ont juste besoin de bâtir le 1-8 d'épais d'alvéoles. Fait que pour eux autres, c'est bien plus facile. Tu essaies de leur rendre la vie le plus facile possible.
Mm-hmm. Parce que c'est eux, afin qu'ils vont tout te créer ton miel, puis si tes abeilles sont trop fatiguées, ben tu vas avoir beaucoup moins de miel.
C'est ça. Fait qu'au lieu de sortir, mettons, 100 livres de miel, tu vas en sortir que 60 ou 50. Puis tu vas en faire travailler tes abeilles plus fort. Il y en a plus qui vont mourir. Puis il ne faut pas t'oublier que tu veux leur laisser du miel rendu au mois de septembre pour leur réserve pour l'hiver.
Mm-hmm.
Fait que s'ils ont tous travaillé bien fort, sont affaiblis, ben ils vont moins de chances de passer l'hiver.
Et comment tu fais pour les garder durant l'hiver? Est-ce que tu les rentres dans ta maison? Est-ce que tu les laisses dehors? Ou...
J'ai tout essayé. Comme c'est là l'année passée, la meilleure méthode, on les laisse dehors, mais on met un manteau d'insulation qu'on ferait d'un pouce. Là, ma femme a trouvé d'autres choses. On a mis une autre insulation plus épaisse à l'entour. Ça fait un manteau, un styrofoam en dessous et un styrofoam sur le toit. Parce qu'une abeille, il faut qu'elle tienne, où est-ce qu'il y a la reine durant l'hiver, il faut qu'elle tienne ça à 20 degrés minimum. Fait que là, si tu ne mets pas de manteau d'insulation tout le tour, mais là, ils vont travailler 10 fois plus fort pour tenir ça dedans. Fait que l'année passée, quand on a tout fait ça, ils n'ont pas perdu de chaleur pantoute, j'ai pas perdu une ruche. Puis quand j'ai arrivé au printemps, on a enlevé ça, puis les abeilles ont sorti dehors, c'était sec, c'était beau, ça a marché, c'est pour ça qu'on a bien du miel cette année. Parce que l'hiver, il faut qu'ils gardent ça à 20 degrés à l'entour de la reine. Fait que si tu leur mets rien, ben s'il fait moins 30, ça va geler. Comme l'année passée, j'en avais une, t'as insulé. Puis tout le tour, j'avais un pouce et demi, deux pouces, la neige était toute fondue. J'avais autant aussi haut de neige que mes deux boîtes que j'avais séchées.
OK.
Ben c'est rien que tu te dis la chaleur qui sortait de là-dedans. Puis j'avais gardé ça. Fait que l'abeille, elle peut sortir un peu par rentrer, mais elle va pas loin. Mm-hmm. Fait qu'elle n'a pas travaillé trop fort pour tenir ça chaud. Fait que ce printemps, quand j'ai arrivé, j'ai pas perdu une ruche.
OK, je pensais que des abeilles, c'était comme d'autres insectes qui hibernent durant l'hiver. Genre, je sais que les araignées, eux, pendant l'hiver, ils hibernent, puis leur cœur arrête de battre, mais quand le printemps arrive, le tout dégèle, ben ils reviennent en vie.
Non, pas les abeilles. Les abeilles, leur cœur principal, c'est où ce qu'est la reine, il faut que ça soit soutenu à 20 degrés. Parce que la reine, si tu as une bonne reine, la reine est forte, tu vas beaucoup de miel, tes abeilles vont être fortes. C'est la reine qui fait toute la différence dans la ruche.
Mais comment, tantôt tu as dit, ils vont changer s'il n'y a plus de place, ils vont changer de reine, mais comment qu'une reine se fait?
Ils pondent des œufs dans le gelée royale, puis là, il y a des travailleuses qui appellent ça des abeilles. Ils vont travailler, ils vont s'occuper de ça, ils vont nourrir la petite abeille dans l'alvéole avec la gelée royale, puis ça va faire une reine. Puis quand il en sort une, les travailleuses tuent toutes les autres reines, toutes les autres bébés. Ils en gardent une.
Oh, donc ils gardent la plus forte.
Ils gardent la plus forte, puis les autres, ils les tuent.
OK, puis ce gelée-là, elle doit être faite d'une façon
C'est la reine qui le fait, puis il y a une manière de le faire. Puis, mais si, comme je dis, si tu tiens des boîtes, t'es pas de danger, t'es correct. Mais non, ils peuvent faire leur propre reine, puis c'est le plus fort, c'est dans la nature. Si t'es pas assez forte, il est dessus, puis il est jeté dehors. Parce que les abeilles, mortes, puis faibles, il est jeté dehors.
Comme n'importe quelle abeille, une abeille travailleuse ou n'importe quoi de même, si elle est trop faible, away dehors.
C'est ça. Puis t'arrives le printemps, là, c'est plein d'abeilles mortes à l'entrée de la ruche. C'est ça, c'est normal parce que ces abeilles qui sont faibles, qui sont mortes ou qui sont malades, ils ont jeté dehors.
Est-ce que c'est la même chose avec une reine? Si la reine est trop faible et trop.
La reine, d'habitude, c'est forte, il n'y a pas de danger, elle va tout le temps rester là. Après, faut que tu changes tes reines. Toutes les deux ans, trois ans, parce qu'elle s'en vient trop faible, parce qu'elle en pond des œufs, elle en fait de l'ouvrage. Fait que on peut acheter une reine neuve et la mettre dedans, mais ça, c'est une manière spéciale de le faire, parce que si tu amènes une reine étrangère et tu la mets dans la ruche, les autres abeilles vont la tuer automatique. Faut que tu les mettes dans une capsule spéciale avec comme une sorte de papier. Ça va prendre à peu près 10 jours avant que le papier se décompose, mais la senteur de la reine nouvelle, elle va se faire imbiber avec la senteur de la ruche. Fait que là, les autres abeilles vont l'accepter. Sinon, si tu mets une reine nouvelle dedans, 2 jours, puis la reine est morte.
OK. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà essayé?
Je l'ai essayé une fois parce que j'avais une reine vraiment faible. Je l'ai faite. Puis il y a des petits contenants que tu peux mettre ta reine dedans quand tu achètes une reine. Tu la mets dedans entre les deux racks. Puis ça prend une semaine et demie à peu près. Puis le papier qui est alentour, il se décompose. Puis là, la senteur tranquillement, la reine est rentrée dedans. Fait que là, quand la reine a accès, les autres abeilles, les ouvrières ont accès à la reine. Ben là, elle sent comme les autres, fait qu'il l'accepte.
OK, puis qu'est-ce qu'ils font avec l'ancienne reine?
Elle est morte, il la jette dehors.
Ah, il la jette juste comme ça, donc il n'y a personne qui échappe à ce châtiment-là. Donc, si t'es trop faible, t'es trop fort, tu fais plus partie de la colonie. Ah ouais, dehors.
Dehors. Puis, c'est ça. La première année, j'avais fait ça, moi, j'avais dehors. Il y a plein d'abeilles mortes dehors. Puis là, je m'étais informé, puis c'est assez. C'est la nature. Si t'es pas assez fort, perd pas de temps. Il va en avoir d'autres abeilles.
OK. Puis est-ce que, mettons, C'est combien de fois qu'il y a une nouvelle reine qui se forme? Parce que, tu sais, on sait, tu nous as mentionné avec la gelée royale, il féconde les œufs puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à chaque fois qu'il y a des œufs qui sont pondus? Non. Ou non? Non.
Quand la reine est forte, les œufs sont tous détruits, il n'y a pas rien qui se passe. Quand la reine est assez forte, là, ça se casse pas la tête. Ils font pas une autre reine juste pour le fun d'en faire une.
OK, ils font vraiment quand c'est un besoin nécessaire.
C'est ça.
Donc, tu peux pas avoir deux reines, mettons, colonie.
Non, tu peux pas. La reine principale, si tu as deux reines, mettons, dans un bébé, puis l'autre reine est bien forte, les travailleuses, comme qu'on appelle, ils la laisseront même pas éclore. Ils vont la tuer, ils vont tuer l'œuf dedans, puis c'est fini. Là. Tu te rendras même pas à vie. Là.
Mais qu'est-ce qui arrive si tu essaies de mettre deux colonies ensemble?
Tu peux pas? Non.
OK, donc c'est comme deux civilisations vraiment distinctes.
Ouais, deux civilisations, deux tribus différentes. Mm-hmm. Puis ils ont chacun leur reine. Puis tu peux pas faire ça.
OK, donc si, mettons, il y a une colonie qui s'en vient beaucoup plus faible, puis mettons, quelqu'un aurait l'idée comme il vient commencer en apiculture ou quelqu'un trouve un nid, puis tu sais, on peut voir qu'ils sont un peu plus faibles, ils peuvent pas les combiner puis les ajouter à une autre colonie.
Non. Nous autres, c'est des fois, si tu vois un essaim qui va arriver, on les attrape, on met dans une nouvelle boîte, puis tu pars une nouvelle colonie là. Parce que tu coupes, mettons qu'il va atterrir d'une branche, tu coupes la branche, les abeilles tombent à terre. En autant que la reine elle rentre dans la boîte, toutes les autres abeilles vont suivre, vont aller dans la boîte, tu fermes la boîte, puis tu t'en vas chez vous avec ça, tu vas te poigner un essaim.
Ah ouais, donc c'est
de rentrer la reine dans la boîte, les autres abeilles vont toutes suivre dedans, puis le lendemain matin, tu s'en viens, tu fermes la boîte. T'envoies être la boîte chez vous, t'as un autre essaim.
Mais comment tu sais c'est quelle qui est la reine? Parce que
elle est plus grosse. Si tu regardes, tu prends ton temps, tu regardes, elle est plus grosse à peu près un quart plus grosse que les autres.
Mm-hmm.
Fait que t'as avoué. Puis quand tu en achètes une, toutes les années sont marquées au marqueur une couleur différente. Comme une année, ça peut être rouge, l'autre, ça peut être bleu. Ça. Fait que quand tu l'achètes, tu regardes sur son dos, ils ont pris un petit marqueur puis ils ont fait une trace dessus. Mais elle est un peu plus grosse que les autres, fait que c'est facile à voir.
OK.
Puis quand là, quand ton matin, tu checks, là, t'as oui, puis là, c'est à oui rentré. Ah ouais, dedans, les autres abeilles, en dedans de 24 heures, sont toutes rentrées dans la boîte. Puis là, t'as un autre essaim.
Mais comment tu fais pour faire l'élevage, mettons, de reines? Parce que tu dis que tu peux en acheter, puis tout ça, mais s'il est tué directement pendant qu'ils sont dans des. Quand ils sont bébés, puis tout ça?
Moi, je fais pas l'élevage de ça. Il y a bien des reines que tu achètes, ça vient de Nouvelle-Zélande, ça vient d'autres places. Il y a des agriculteurs qui se spécialisent là-dedans. Alentour du site, il y a du monde qui le font. Quand ils font sûr de ne pas mettre une abeille, mais là, quand elle va pondre ses œufs, là, ils font sûr de l'enlever. Puis c'est contrôlé pas mal plus. Moi, j'ai jamais joué dedans. Là. Mm-hmm. J'ai appris un cours une fois, mais j'ai trop d'affaires à faire. J'ai mieux se l'acheter à la reine, c'est tout. Il y a une manière spéciale de le faire, de la sortir de dedans, de le mettre dans une cage. Puis il y a une manière de le faire. Je peux pas dire au juste, j'ai jamais fait. Là. J'ai pris le cours, mais j'ai pas le temps de le faire.
OK. Puis, à chaque année, eh bien, quand tu achètes les reines, est-ce que il y a des différentes sortes de reines ou que tu peux avoir comme différentes sortes d'abeilles que cette abeille-là est meilleure pour tel endroit, cette abeille-là pour quel type de climat? Ou...
Ben, les abeilles pour le climat, c'est tout à peu près pareil. Il y a des abeilles qui sont moins mauvaises que d'autres.
Ouais, ben, les guêpes.
Ouais, c'est comme. Moi, je l'ai acheté d'un producteur, ça fait 2 ans. Les abeilles sont super fines. Tu peux aller à côté, ils ne te piquent pas. Il y a 3 ans, j'ai acheté d'une autre place. Mauvaise, tu arrives là même avec un costume. Si tu ne fais pas attention, ils te piquent. Mais sûr, ça fait 2 ans. Là, puis, hey, tu peux arriver à côté. J'y étais cet été, puis je n'amène pas de costume. Puis ils ne m'ont même pas piqué rien. Hein.
Ah oui?
Oh, oui, oui.
Puis tu es capable de lever le top de la boîte, puis tout ça?
Oui, je l'ai fait. Là, j'ai été il y a 2 semaines. Puis, je vais enlever mon couvert, le petit couvert en dessous. Là, oh, OK, il commence à travailler là. J'ai mis une autre boîte par-dessus. Ils ne m'ont même pas piqué rien. Mais j'ai allaité de l'autre place. Là, oh, elle était mauvaise, les reines, les abeilles. Fait que la reine, c'est mauvaise, tes abeilles sont mauvaises. La reine est fine. Fait que moi, où est-ce que je les prends, comme j'ai pris ça cette année, les gars, ils en ont, je pense, c'est 3 000. Puis, ils en vendent partout à travers de l'Ontario, partout. Puis,
3 000 reines?
3 000 ruches que tu
peux acheter. OK,
OK. Une ruche, quand tu achètes une boîte, tu as 4 racks dedans avec. Je pense que c'est 5, 6 000 ou 10 000 abeilles plus la reine. Mm-hmm. Tu amènes ça chez vous. Mais les reines sont super fines. Là, comme ceux de l'année passée, je n'ai pas perdu. Ils sont toutes vivantes. Puis je vais à côté, puis ils sont même pas mauvaises. Puis si j'allais être à l'autre place. Puis le gars, j'ai dit, Ça donne de même. Le croisement qu'ils ont fait, je ne sais pas c'est quoi. Là. C'est un croisement génétique qu'ils ont fait. Mm-hmm. Ou quand ils ont pogné une lignée de reines qui ne sont pas mauvaises, ben, ils ont continué à pousser là-dessus. Ça fait que... Ça dépend.
Ça dépend vraiment du tempérament de la reine. Je savais pas que la colonie prenait le tempérament aussi de la reine.
Oui. La reine, c'est elle qui est le boss, qui fait la... qui va dire si tu as bien du miel, si tes abeilles sont mauvaises, pas mauvaises. Ça passe tout par elle. Tu as une bonne reine, elle n'est pas mauvaise. Tu vas avoir des bonnes abeilles, tu vas avoir du miel, tu ne te feras pas piquer. Je ne veux pas dire que ceux qui sont mauvais ne sont pas bonnes. Moi, ce ruche-là, elle était super bonne. Hey, j'ai sorti du miel là-dedans en masse. Mais ça s'appelle, fais attention, ils sont mauvaises.
OK, donc c'est pas le tempérament qui va changer comment de miel que tu vas avoir. C'est juste comment travaillons que... La reine allée.
C'est ça. Fait que tu fous, tu t'adaptes avec la reine que t'as. Puis ça fait ton essaim d'une manière. Là. Parce que la reine, elle sortira pas de la boîte. Elle reste dans la boîte. Elle n'a pas de piqué. C'est les autres qui vont sortir de piqué. Puis si une petite pique, puis tu as le malheur de l'écraser, il y a une senteur qui se développe, puis là, les autres t'attaquent. Si le monde pourrait se réaliser, au lieu de l'écraser, tu la pousses, les abeilles vont te rester tranquilles. Ah, je dis pas, des fois, ça peut arriver, tu te fais piquer pareil. Là.
Mm-hmm.
Mais faut pas si tu l'écrases, il y a une senteur, puis là ça te base à l'entour de toi.
OK, c'est cette senteur-là qui attire les autres abeilles. Donc,
ils ont dit, si tu en as tué une, ben on s'en
va. Ben là, tu es une menace pour la colonie.
C'est ça. Mais si tu fais de la pousser, une autre affaire, si tu l'écrases pas, l'odeur ne rentre pas dans ta peau, c'est bien moins pire. Parce que quand tu l'écrases, tu rentres l'odeur, puis le restant du venin, ben pas du venin, mais du stuff qu'il y a dedans, puis là, ça va chauffer plus.
Mm-hmm.
Mais si tu fais de la pousser, bah, ça a piqué un peu, ça va chauffer une heure, puis même pas, puis c'est fini. Fait que, non, c'est des petits trucs qu'il faut que tu fasses.
Puis aussi, quand une abeille pique quelqu'un, cette abeille-là, malheureusement, va mourir aussi.
Ouais.
Sais-tu si elle perd l'odeur ou si elle garde l'odeur, elle va être encore en vie?
C'est une bonne question. Je sais que tu l'écrases. Fait que si tu l'écrases, l'odeur te rentre dans le bras.
Mm-hmm.
Fait que, whatever, ce que tu te fais piquer, elle va mourir pareil. Si le dos reste là ou pas là, c'est fini. Elle finit pareil.
OK.
Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, j'étais comme, il y a du monde qui m'a aidé. Là, cette année, on a parti une fille pour là-dessus. Là, je dis, regarde, faut que tu sois relax. Si t'es nerveux, va-t'en pas dans les abeilles. Si quelqu'un a un tempérament nerveux, les abeilles vont le sentir, ils vont t'attaquer. Elle est pas nerveuse. Il n'y a pas d'abeille qui l'a piqué, rien de ça. J'ai un de mes jeunes, moi, qui est bien nerveux. Pas, amène pas sur les abeilles vont l'attaquer. C'est un animal, une abeille. Hein? Que ce soit une vache, un chien, une abeille, si t'es nerveux, l'animal va le sentir, puis il va t'attaquer.
Oui, ben parce que eux autres, ça peut les rendre eux-mêmes nerveux.
Ouais.
Puis aussi, ils peuvent dire, ah, OK, ben dans la nature, c'est quand que quelqu'un de nerveux, c'est genre un sentiment de, OK, cet animal-là, cet insecte-là, est plus faible, donc on va l'attaquer.
Ouais. Puis ils veulent défendre leur territoire, défendre la ruche, mm-hmm. défendre ça. Fait que dans les abeilles, une des premières affaires, il ne faut pas que tu sois nerveux. Deuxième affaire, tu vas juste jouer là quand il fait soleil. Quand c'est une journée comme aujourd'hui, nuageux, de la pluie, tu ne vas pas jouer dans les abeilles.
Ah non!
Les abeilles sont toutes dans la ruche, tu les déranges, je te jure que tu te fais piquer. Même s'ils sont bien gentils, là, tu ne vas pas jouer dans les abeilles quand c'est nuageux, il fait froid. Tu ne joues pas dans les abeilles. Tu vas là quand il fait soleil, il fait beau, il fait chaud, il ne t'achale pas, tu peux avoir 5000 abeilles autour de toi, ils font leur affaire tranquille, tu t'en vas tranquillement, ils ne t'achalent pas. Une journée comme aujourd'hui, garantie, tu te fais piquer.
Tu peux-tu y aller la nuit aussi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, il faut que tu ailles enlever la ruche pendant la nuit parce que toutes les abeilles sont en train de dormir.
Ben, ils le font parce que moi, je l'ai fait, c'est parce que c'est pas qu'ils sont en train de dormir, ils sont vivants, mais ils sont tous dans la ruche. Fait que quand tu arrives là, tu bloques l'entrée.
Mm-hmm.
Puis là, tu peux strapper tes deux boîtes, mettons que tu as, puis là, tu veux la changer de place. Fait que le matin, quand la clarté arrive, ils vont sortir, puis ah, OK, c'est une nouvelle place, ils vont tourner alentour. Si tu fais ça dans le jour, la moitié de tes abeilles sont parties. Mm-hmm. Puis là, tu pars avec ta boîte, tes abeilles qui sont parties chercher du pollen, ils vont revenir, il n'y a plus de ruche, mais ils vont mourir d'être là.
Ah, ils vont se laisser mourir?
Oui, oui, ils vont revenir parce que la ruche est supposée d'être là, ils arrivent là, puis ils tournent en rond, pendant de 24-48 heures, ben ils meurent. Parce que la ruche est partie.
Mais est-ce que des abeilles qui sont en dehors d'une ruche, puis la ruche à part, est-ce qu'ils peuvent migrer à une autre ruche? Non.
Non. Ah non, c'est vraiment leur territoire, leur maison. C'est pour ça qu'on fait ça le soir. Le soir, tu arrives là, ils sont tous en dedans. Mm-hmm. 99% sont en dedans. On bloque le trou. On fait sûr que tout est correct. Là, ta boîte, tu l'amènes, tes abeilles sont en dedans. Puis ça, quand tu arrives le matin, rouvre ta trappe, va-t'en, puis les abeilles vont retourner dehors, ils vont se promener, puis ils vont revenir.
Ça ne dérange pas qu'il ait changé d'endroit à la ruche. Tant que la ruche est intacte et est encore là, il n'y a rien qui s'est passé sauf le déplacement.
C'est ça. Fait qu'ils vont sortir, puis ils vont aller voir alentour où il y a des feuilles, puis ils appellent les autres. Puis ça va, le business as usual, ils vont continuer.
Puis ils ont plusieurs rôles aussi. C'est un peu comme l'armée, comme que je suis en train de réaliser. Tu sais, je fais une comparaison à l'armée, là, mais tu sais, t'as ceux qui vont, les éclaireurs qui vont aller voir aux alentours, comme tu viens de mentionner. T'as ceux qui prennent soin des larves, j'imagine, quand ils sont bébés. T'as aussi.
Ceux qui défendent la ruche.
Mm-hmm.
Ceux qui nettoient la ruche.
OK.
Ils ont chacun leur job à faire. Puis c'est comme tu dis, c'est comme l'armée. T'as ta job à faire, tu le fais, puis ça écoute.
Puis si ça écoute pas, ben c'est « Ah ouais, d'avoir, puis il revient pas.
» Ouais, mais c'est même pas une option pour eux autres. C'est comme, tu sais, c'est ça faut que tu fasses, parce que c'est la nature, si t'es faible, ben tu vas mourir. C'est d'autres, on s'aide, là, les humains,
mm-hmm.
mais une abeille, c'est un animal, puis c'est... La nature est là, puis faut que tu veux garder tes temps, t'es meilleur, t'es plus fort pour garder les plus faibles, eux autres, pas de chance, d'avoir.
Mais il y a des histoires aussi de gens qui sauvent une abeille, mettons, de la noyade ou quelque chose comme ça, puis l'abeille devient comme amie avec. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive ou c'est juste l'abeille comme « Ah, oh, je suis pas mort, fait que je vais continuer. »
Ben, moi, j'ai une piscine, puis des fois, ils vont venir dans l'eau. Puis là, ben oui, quand ils tombent dans l'eau pour boire, mais là, ça marche pas. Là, t'en sors de l'eau, puis elle shake un peu, puis elle part. Elle revient pas. Là.
OK, c'est juste les gens qui essaient de mettre des sentiments, genre, à l'insecte.
Une abeille, c'est qu'elle a besoin d'eau. Fait que si le monde ne réalise pas, tu as moins de l'eau courante, pas de l'eau corrompue, rien de ça. Fait que moi, que si je fais une place des abeilles, il n'y a pas un gros fossé. Fait que j'ai un plat avec une éponge. Parce que les abeilles vont tomber sur l'éponge. Mm-hmm. L'éponge est pleine d'eau. Parce que si tu fais tomber sur de l'eau, elle va essayer de. Mais s'il y a une petite vague ou un petit vent, ben, elle tombe dans l'eau, mais c'est pas fait pour jouer dans l'eau, ces animaux-là. Fait que là, tu mets une éponge. Fait que là, l'éponge est tout trempe. Fait qu'ils atterrissent dessus, ils boivent l'eau qu'ils ont besoin, whatever qu'ils veulent faire, puis ils repartent, sans correct.
Combien d'éponges tu mets environ?
Oh, j'en mets pour 3 ruches, je mets juste une éponge, c'est tout. Le plat, il est tout bien 10 pouces de diamètre, 2 pouces de profond, puis tu mets de l'eau tout bien toutes les 2 semaines. Là.
Mais c'est vrai, j'y avais pas pensé à ça, mais ça a besoin de l'eau, une abeille, parce que.
Une piscine, c'est pas bon pour les abeilles, parce que c'est du chlore et du sel.
C'est vrai.
Puis un fossé que l'eau ne se promène pas, l'eau va venir corrompue. Fait que si ton eau n'est pas bonne, l'abeille a. C'est comme nous autres, si on n'a pas de la bonne eau, on ne t'offre pas longtemps, c'est pareil. Fait que là, nous autres, c'est pour ça que cette place-là, où je l'ai mis, il n'y a pas de gros fossé. Fait que là, rendu durant l'été, bon, 1 semaine, 2 semaines, on met tant de l'eau fraîche dedans, puis ils produisent bien.
C'est combien de fois par semaine ou par jour faut que tu changes l'eau?
Oh non, une fois par semaine, c'est bon.
Ah oui.
Ben, je mets la soucoupe comme à l'ombre. Je ne mets pas au soleil, parce que je mets trop au soleil, ce ne sera pas bon. Fait que tu le mets à l'ombre, fait que là, l'eau elle reste bête. Fait qu'une semaine, 2 semaines, tu rechanges ton eau, tu remets un peu d'eau. On parle d'une tasse d'eau, là, c'est pas grand-chose.
Donc, c'est vrai parce que leurs corps sont beaucoup plus petits que nous autres. Ouais, nous, ça. On est fait à 60-70% d'eau, mais une abeille, ça doit être peut-être similaire à nous autres, j'imagine, mais pour survivre, ils ont besoin d'eau. C'est l'élixir de la vie de tous les organismes vivants sur la Terre.
Oui, fait qu'ils n'ont pas moins de gros d'eau, mais ils en ont besoin un petit peu. Comme je te dis, une petite soucoupe, là, puis c'est bon, puis quand je change, il reste encore bien de l'eau dedans. Là.
Ben oui.
Fait qu'il prend le petit peu d'eau. Je n'ai jamais remarqué comment il est en web. Là. Fait qu'on fait qu'il fasse sûr que tu as de l'eau propre. L'autre place que c'est l'eau d'égout de la dalle de ma grange.
Mm-hmm.
Fait qu'elle tombe. Fait que le temps de l'eau fraîche là-dedans. Puis sur les abeilles, on a mis une roche. Là. Parce que l'éponge, elle revole au vent. Mm-hmm. Fait qu'on a mis une roche ou deux. Fait que là, il y a tout le temps de l'eau qui se met jusque sur le dessus de la roche. Fait qu'il atterrit sa roche, il a de l'eau, puis il repart.
OK.
Fait que tu peux faire ça aussi.
Puis les 3 ruches que t'as, ils se battent pas pour l'eau, rien?
Non. Tu peux avoir 10 ruches l'une à côté de l'autre. Si t'as assez de fleurs, tu peux mettre autant de ruches que tu veux. Mais une abeille fait 3 km à 4 km à l'entour de la ruche.
Autant que ça?
Oui, quand il fait soleil.
Quand il fait soleil.
Quand il fait pas beau, 100 pieds.
Juste 100 pieds?
Oui. Fait que l'année passée, quand il y a un printemps bien froid, les abeilles, ils n'allent pas nulle part. Ils n'ont pas un côte pour eux autres. Mm-hmm. Ça fait qu'il y a juste à peu près 100 pieds. Fait que là, l'année passée, j'ai tout de donner un petit peu de sucre au printemps. Parce que ça les aurait trop affaiblis. Mais cette année, on a eu un beau printemps, il n'a pas gelé, la chaleur a parti tout de suite, les abeilles, ça a sorti, On a des restrictions là, où il rentre, pour faire sûr qu'il n'y a pas de souris qui va dedans, mais rien de ça. On a enlevé ça, puis le lendemain, les abeilles s'en sortaient. Là, tu voyais ça se promener, ça va au-dessus là.
Puis tu peux donner du sucre aussi à tes abeilles.
Ça, j'ai fait ça au printemps parce que c'était trop froid.
C'est-tu un sucre particulier ou c'est du sucre blanc?
C'est un sucre blanc mélangé avec un peu d'eau. Ça, c'est juste quand tu es mal pris. Tu veux que ton abeille, elle se garde la force pour quand les pissenlits sortent. Quand les pissenlits sortent, tu n'as plus moins de rien. C'est la première fleur que les abeilles ont le dessus. Fait que tu sais, des fois, comme l'année passée, ça a pris du temps avant que ça sorte.
Mm-hmm.
Bon, ben si tu ne fais pas ça, ben, tes abeilles vont être trop faibles. Fait que tu leur donnes toutes les chances au monde. Fait que tu donnes un peu de sucre avec de l'eau. Juste dans les plats à côté, il y a des mangeoires exprès pour ça. Puis après, quand on a vu les pissenlits sortir, tu enlèves tout ça. Puis là la saison part.
Puis ça, le miel, c'est vraiment leur source de manger aussi, j'imagine.
Oui, oui. Parce que quand j'extrais le miel de mes carrés, comme que je vais faire, j'ai une machine à centrifuge pour sortir le miel. Oui. Quand je reprends mes boîtes, je les ramène au ras des abeilles. Puis en dans une semaine, ils ont tout cleané. Le petit peu de miel qui est alentour des alvéoles, c'est tout cleané sec. Là, je peux prendre mes boîtes puis je les resserre pour l'hiver, jusqu'à l'année prochaine. Il me nettoie net. Là, j'ai plus une goutte de miel sur mes boîtes.
Ah ouais.
Ah, il nettoie tout. Parce que tu es rendu au mois de septembre, les feuilles sont, mm-hmm. les fleurs sont plus rares. Puis là, ils se bâtissent leur réserve pour l'hiver. Fait que moi, je ramène, ça colle tout un petit peu après les alvéoles puis après mes carrés. Fait que tu remets ça à côté, puis en deux semaines, là, à peu près un peu plus, puis nettoie ça, là, il n'y a plus une goutte de miel après boîte. Ils ont tout rentré ça en dedans.
Tout au complet. Puis là. Ta machine, tu mentionnais aussi la machine centrifuge. C'est,
ouais.
C'est-tu la machine à boucan, ça?
Non, centrifuge, je mets mes carrés dedans que je sors de ma boîte de miel. Je les mets debout. Là, ça tourne de manière d'une horloge.
Mm-hmm.
Ça tourne assez vite que le miel est extrait par lui-même. Tu enlèves la cire.
Ah, oh, OK.
Oui, parce que tu as de la cire. Toutes ces alvéoles, mm-hmm. ils vont toutes mettre la cire. Fait que tu enlèves l'épaisseur de cire. Tu mets ça dedans, puis là, ça tourne pendant 10 minutes. Puis tout ton miel sort de ça. Puis ça, tu le files, puis après ça, tu le... Fait que...
Puis après ça, tu le produis ou tu le mets dans des pots, puis tout
ben
ça.
Là, je le mets dans des gros tuyaux de plastique. Après ça, c'est filtré deux fois avant de le mettre dedans. J'ai deux chaudes de filtreurs de stainless différentes grosseurs. Puis là, j'ai un cheese cloth, quelque chose, moi, t'appelles ça, un linge de fromage, qui appelle ça. Ça passe à travers de ça. Je le laisse 24 heures dans le premier tuyau pour l'oxygène de remonter à la surface. Tu l'enlèves, c'est une petite broue blanche. Tu enlèves ça, puis là, tu mets ça dans les cannes, c'est pas la vente.
OK, puis...
Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien.
OK, mais si tu... Mais tu peux pas manger juste le miel après que tu l'aies extrait des ruches?
Oui.
Ah oui, tu peux?
Oui. Puis la cire qu'on enlève sur le dessus des alvéoles, mm-hmm. on en vend, c'est excellent pour la digestion. Ça fait, tu vas manger ça, c'est du miel,
mm-hmm.
c'est de la cire, c'est naturel, c'est bon pour la digestion. Tu vas chiquer ça comme une gomme pendant une demi-heure, tu jettes ça, t'en prends une autre bouchée, puis c'est bon pour la digestion.
OK, donc il y a plus. Donc, même la cire que tu mets sur ton papier pour les aider au tout début, c'est quelque chose qui sert à aider puis qui est utilisé aussi plus tard.
Oui. Mais l'alvéole telle qu'elle, elle reste dessus la feuille de cire. Mais c'est la cire qui. Quand l'alvéole est pleine, ils mettent une cire dessus pour pas que ça tombe à terre.
Ah, OK, donc c'est pas la feuille de cire que tu as mis au début, c'est la cire qu'eux ont produit eux-mêmes naturellement.
C'est ça. Parce qu'on l'enlève, parce qu'avant de le mettre dans la machine à centrifuge, là, on laisse sortir le miel là-dedans. Là, on met ça dans des cannes. Puis il y en a bien qui, il y a qui savent ça, fait qu'ils en veulent tout le temps. Puis là, ils s'achètent un mason jar. Puis ils achètent un ou deux, puis ils sont bons pour 3 mois, 6 mois. Ils chiquent ça, puis c'est comme une gomme naturelle. Il n'y a pas de sucre, rien de ça. C'est juste le miel. Le monde mange ça, puis aime bien ça.
Puis c'est à saveur de miel, j'imagine aussi.
Oui, c'est ça. Fait que là, c'est un miel de framboise. Fait que ta cire, elle va être vraiment sucrée. Si c'est de la sarrasin, ça va être un miel très fort. Fait que il y a un marché pour toutes les sortes de miel qu'il y a.
Puis toi, c'est quoi ton miel préféré si tu as à choisir
ta période? Le miel de framboise puis bleuet, c'est le meilleur.
Ah oui?
Ah oui, il est plus clair, plus sucré. Moi, le miel sarrasin, j'aime pas ça. Mais le miel sarrasin, c'est une clientèle différente. Ceux qui aiment ça, ils raffolent. Ils ne mangeront pas l'autre miel. Moi, le miel, le premier miel que je sors pour les framboises et bleuets, c'est celui-là que j'aime le plus. Puis la plupart du monde aime mieux celle-là parce qu'il y a un petit goût plus sucré, plus il est vraiment clair. Fait qu'on vend quasiment 40% de notre récolte avant qu'on le produise.
Ah, donc les gens, ils font déjà leur commande en ligne, puis sont comme, OK, une fois que toi, tu vas avoir fait, tu sais, 3-4 récoltes ou quelque chose comme ça, moi, je vais avoir 6 pots.
Ouais, c'est ça, 6 pots, 12 pots. Mes meilleurs, ils achètent 24 pots pour passer pour un année.
Wow, OK.
Puis il y a une femme, elle l'achète, son mari, il ne peut pas prendre le sucre. Mm-hmm. Fait qu'elle fait tout à manger avec du miel, puis son mari n'a plus de problème.
Ah, parce que,
au lieu de mettre du sucre, il met du miel. Mm-hmm. Puis elle fait des gâteaux et tout ça. Parce que lui, je ne sais pas quelle maladie qu'il a, il ne peut pas prendre de sucre. Fait qu'elle avait vu ça, fait qu'elle a acheté du miel, puis elle a acheté 2 caisses par année. C'est 24 pots de 1 kilo. Puis elle dit, je fais à manger juste avec ça. Aucun sucre dans la maison, c'est juste du miel. Puis son mari, puis de trouble, il peut manger n'importe quoi de dessert. Fait qu'elle a rempli ça par du miel, puis il est bien heureux.
Ben, c'est vrai, quand tu y penses, c'est ceux qui ont le diabète ou ceux qui ont... je pense aussi à notre co-animatrice ici, Maëlie, qu'elle ne peut pas manger de gluten ou rien. Fait qu'elle remplace souvent toutes ses sauces et tout ça par du miel.
Ouais. C'est naturel. Il n'y a aucun produit chimique, rien dedans. Fait que, en tout cas, moi, cette femme-là, elle va commencer à faire... je pense que ça fait 15 ans qu'elle en achète.
Mm-hmm.
Puis son mari est heureux, puis elle est heureuse. Elle dit, on peut recommencer à faire du dessert, puis lui, il en mange, il n'est pas malade. La maladie, je ne peux pas se me rappeler pas ce qu'il y a, là, mais il est heureux avec ça.
Ah, c'est cool. Puis toi, est-ce que toi, tu rajoutes du sucre? Ben, tu mentionnes que lui, il ne peut pas manger de sucre, donc j'imagine que tu ne rajoutes pas de sucre dans ta production de miel, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait aussi? Ou?
Oui, les gros producteurs, il y en a qui le font. C'est un pourcentage que tu es alloué. Moi, il n'y a pas aucun sucre. Qu'est-ce que le miel qui sort? Ça vient des pollens, point final. Ouais, je pourrais te mettre à rajouter du sucre, ça me donnerait tout de même 20% de plus de production. Moi, je ne suis pas là-dedans pour faire ça. Moi, le miel qui sort de chez nous, il est naturel, filtré 3 fois, puis c'est tout.
Puis à chaque filtre, c'est à quoi ça sert ces filtres-là si tu peux le manger déjà quand tu le récoltes?
C'est juste parce que quand tu le mets dans la machine à centrifuge, mettons que tu as un petit morceau de cire qui est resté dedans. Bon, mais le premier filtre, il enlève les. Ou il y a un morceau de feuille, ou des fois qu'il y a une abeille qui est restée dedans. Bien, ça l'enlève. L'autre en dessous, c'est plus la cire un peu. Puis le linge à fromage cheese sloth, bof, c'est là, on l'a tout le temps fait. Puis tu n'as aucune impureté dedans, rien de ça. Parce que si tu l'enlèves, tu es dans les champs, tu prends un petit peu de feuilles, puis tu as une abeille qui va tomber dedans, tu peux pas juste l'enlever de même. Fait que là, quand ça passe à travers de ça, c'est la preuve que ton miel est vraiment net. Moi, il n'est pas pasteurisé. Parce que moi, je ne le pasteurise pas rien. Fait que c'est pour ça, en le filtrant de même, qu'est-ce que tu l'achètes, c'est... Tu peux le manger, puis il n'y a pas de... Comme moi, le frère va le manger quand je prends des doigts, puis je vais le manger à travers des carrés, là.
Mm-hmm.
Puis il n'y a pas de trouble, il est bon, là. J'ai eu une classe d'école, ils sont venus, là, puis on avait 3-4 carrés, puis ils se mettaient les deux doigts là-dedans, ils sont bourrés à la face. Ils ont bien aimé ça. OK, ces carrés-là, t'as fini après, là. Mais non, ça fait partie de la game, là. C'est... Nous autres, dans le filtre même, on ne le pasteurise pas parce qu'il y a des grosses compagnies qui vont le pasteuriser pour faire sûr qu'il n'y a rien.
Mm-hmm.
Nous autres, il n'est pas pasteurisé. La plupart des petits apiculteurs qu'il y a dans la région, j'en connais pas gros qui le font.
Puis c'est quoi ça, la pasteurisation?
C'est chauffer ton miel à un certain degré que, ben, ils disent qu'il peut avoir des maladies dedans. Moi, ça fait 30 ans que j'en fais, puis jamais de trouble.
OK.
Mais ça dépend. T'sais, si tu fais ça en grosse quantité, tu vas dans les bois, tu vas. Je ne sais pas où est-ce que le monde peut aller. Fait que, ils disent que tu peux le faire. Mais tous les petits apiculteurs qui sont dans la région aussi, puis alentour, il n'y a pas personne qui pasteurise ça. Les seuls qui vont le pasteuriser, c'est ceux que des magasins, ceux qui viennent de la Chine, ça vient d'ailleurs. Là. Ça, c'est pasteurisé, le restant, ça ne l'est pas.
OK, peut-être à cause des herbicides. Tu sais, mettons quelqu'un qui utilise des herbicides proche de sa cour ou quelqu'un.
Ça se peut, c'est tout bien ça. Il y a une loi de quelque chose CFIE. Là.
Mm-hmm.
Mais comme je te dis, tout le monde le fait, personne ne pasteurise, personne n'est malade. Puis, les grosses compagnies le font. Pourquoi au juste? C'est-tu parce qu'ils ont mis un petit peu de sucre, ils veulent faire ça qu'ils enlèvent le taux de sucre ou je ne sais pas. C'est une question de marketing, question de. Bon, le miel, là, au moins, tu vas le chercher dans les carrés, tu te mets les doigts dedans, puis il n'y a pas de trouble.
Il n'y a pas de trouble, ça y va.
Oh oui, tu vas être beurré, mais c'est pas grave, il va être bon.
Puis je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit en début d'émission, c'est que oui, il y a moins d'abeilles au Canada puis un peu partout à travers le monde, mais il y a de plus en plus d'apiculteurs.
Parce que je pense quand il parle de moins d'abeilles, si tu vois, c'est les grosses compagnies, tout bien, oui, il y a plus de mortalité. Mais comme dans la région, le site de Prescott Russell, le nombre d'apiculteurs a bien grossi. Mais c'est tous des petits apiculteurs de 1 à 3 ruches.
OK.
Fait que les gros de 500 ruches, puis 3000, puis 5000 ruches, ils ont plus de misère, mais ces abeilles-là, ils font de la pollinisation. Ils peuvent partir du sud de l'Ontario, ils vont aller dans le nord, ils vont aller dans des maritimes, ils vont aller. C'est dur, ces abeilles, ça et tout. Mm-hmm. Oui, ils en parlent. Il y a les ondes magnétiques qui disent que ça peut débalancer les abeilles. Il y a la Veromite, un petit insecte qui rembarque dessus. Ça, si ça rentre dans ta ruche, ils peuvent tout de suite tes abeilles.
Oh, wow, oh, OK. Oui.
Veromite, c'est la pire des bébites. Puis il y en a un autre, Fallbrood, qu'il appelle. C'est une petite bébite qui se colle dessus l'abeille, puis elle va la tuer tranquillement. Puis si ça rentre dans ta ruche, tu vas toute la perdre.
Ben, c'est un parasite, fait que ça se multiplie. Puis ouais. Là, le bébé de... le premier pond des bébés, là, après ça, les bébés, eux autres, ça en va sur les autres abeilles, puis là, ça se propage
ça,
de...
Ça grossit vite, puis la population monte vite. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire des précautions. On traite nos abeilles l'automne. Quand tout ton miel est sorti, on les traite, il y a du stuff que tu peux traiter tes abeilles pour empêcher ces veromites-là de rentrer dans la ruche.
Puis comment ça se passe, ces traitements-là?
C'est juste une poudre que tu mets sur le top.
OK.
Oui, il y a un autre traitement, c'est des languettes que tu rentres entre les carrés. Puis c'est une sorte d'insecticide. Fait que si la veromite est là, sa senteur-là, elle va tuer la veromite.
OK, donc c'est un insecticide qui n'est pas mortel pour les abeilles ou qui n'est pas toxique pour contaminer le miel.
C'est ça. Mais tu fais ça juste quand ton miel est sorti.
OK.
Tu peux pas faire ça là, au printemps ou durant l'été quand tu fais ta production de miel. Quand ta production est finie, comme au mois de septembre, quand tout est fini, tu mets deux lanières ou trois lanières par boîte, puis tu l'enlèves après 45 jours, tu l'enlèves dessus pour qu'il n'y ait pas de résistance. Mais ça dégage une senteur que si des veromites ou des fallbrood, ils vont juste mourir. Okay. Mais l'abeille, ça ne dérangera pas l'abeille. L'abeille est contente. Une autre affaire que j'ai vue quand essayer, c'est une petite brosse.
Mm-hmm.
Ils mettent ça dans la ruche, les abeilles passent, parce que ça se colle sur le dos de l'abeille. Fait que là, l'abeille, elle passe en dessous de ça, c'est une petite brosse, fait que ça... Si ça l'aide aussi, là, ça peut enlever le veromite dessus le dos de l'abeille. Fait que tu fais deux, trois traitements différentes manières mm-hmm. pour donner ta chance à ton abeille d'être correcte.
OK, puis c'est vraiment pour donner la chance aux coureurs, comme tu avais mentionné plus tôt, parce que le plus de chance tu y donnes, le plus d'avantages que l'abeille va avoir. Elle va être plus
en santé,
elle va avoir plus d'énergie, puis aussi elle va te produire beaucoup plus de miel.
C'est ça. Fait que c'est gagnant-gagnant. C'est bon pour l'abeille, c'est bon pour la nature, c'est bon pour la pollinisation. Parce que plus que tu as d'abeilles que tu as, plus que tes fleurs sont pollinisées, tes arbres fruitiers, tes bleuets, tes framboises, tes fraises, tu en as besoin. Fait que s'ils sont en bonne shape, ils vont tout polliniser. Fait que tu vas une meilleure récolte de fraises, de framboises, de petits fruits, de pommes, de tout. Fait que c'est important. Puis tes pommiers, quand ils fleurissent le printemps,
mm-hmm.
ou tes fraises ils fleurissent de bonheur, c'est important que tes abeilles soient en bonne position, que quand ça arrive, sont fortes puis ils vont y aller de suite. Parce que s'ils sont faibles, tu vas avoir moins de pollinisation, moins de rendement.
Puis tu veux avoir du rendement, évidemment, parce que tu veux avoir à fin de l'année, tu sais, ton miel qui est là, puis tout ça.
Tu vas ton miel, puis le producteur de petits fruits, il veut sa récolte. Mm-hmm. Parce que si tu n'as pas d'abeilles qui va dedans,
tu n'auras pas de fruits.
Tu vas en perdre 50%. Parce que tu vas te fier juste sur des pollinisateurs naturels qui sont dans la nature. Mais ça, c'est 50% de ta production. Fait que là, l'abeille est là, tu l'amènes, elle a fait sa job, elle pollinise, tu as plus de petits fruits, puis l'apiculteur, il a plus de miel, mm-hmm. et le producteur, il a plus de fraises, puis il a plus de framboises. Puis...
Donc, c'est un avantage, mettons, pour quelqu'un qui fait pousser des fruits, qui fait pousser des légumes, puis tout ça, d'avoir justement des abeilles puis des apiculteurs proches.
Ouais. Ou... En dedans de 3 km. Fait que quelqu'un qui est dans un village... Puis il sait qu'un apiculteur à chaque bout du village, ben lui est heureux. Parce qu'il sait qu'il y a des abeilles qui vont se promener, puis l'abeille va sentir, puis ils vont polliniser ses fleurs, polliniser ses fruits. Fait que si t'as pas d'abeilles, t'as rien. C'est pas compliqué, là.
Puis pour toi, c'est un avantage, vu que tu mentionnes que t'as des fraises puis t'as des framboises.
J'ai des framboises et des bleuets.
Ah, des framboises et des bleuets.
Fait que là, ben...
Toi, moi, t'es heureux,
Ben oui, moi j'ai tout le temps une coupe de ruche à côté. Fait que quand les fleurs sortent, tu vois, les abeilles sont toutes dedans, c'est bien plein. Fait que moi, cette année, c'était excellent dans les framboises, excellent dans les bleuets. Fait mm-hmm. que c'était beau. L'année passée, c'était froid. La pollinisation, c'est pas fait si bien. On n'a eu pas de temps. Le rendement était moins bon.
Donc, finalement, c'est un cycle que tu as installé sur ta ferme que toi, t'as ta ruche, t'as tes abeilles, puis tout ça, qu'ils gardent à manger avec tes fruits que tu fais pousser.
Ouais.
Puis en même temps, ben ça augmente la production de tes abeilles, ça augmente aussi la production de tes fruits.
Ouais, puis là, ça fait 3 ans qu'on a commencé à planter des pommes, des pêches, des poiriers. Fait que là, le but, c'est qu'on ait à peu près un 3 acres juste d'arbres fruitiers.
Oh wow, OK.
Puis là, ben aussi pour la famille, c'est pour la nature. Puis là, on va des abeilles là-dedans. Fait que les abeilles vont se promener. Fait que, comme tu dis, c'est un cycle. Puis tout le monde est regagné.
Mm-hmm.
Fait que, on va être correct. On a une bonne famille. Fait qu'on va pas manger, on va être correct.
Ben oui. Donc, c'est genre, tu crées dans ta ferme, toi, un environnement où est-ce que les deux peuvent fleurir ensemble puis vraiment créer ce cycle-là pour en redonner à tout le monde.
Oui. Je crée tout le temps dans n'importe quoi que tu fais, gagner. Fait que personne n'est le moins possible. Là. Tout le monde est gagnant. Fait que, tu sais, d'autres, on va avoir des bons fruits de qualité. Les abeilles, ils vont être en santé. Puis, ils vont pas le dire chez nous, mais ils vont le faire sur le voisin. Parce que le voisin, une de mes voisines, elle a un tabarot de beau jardin. Bon, ben, contente, elle. Avant ça, les abeilles, ça ne l'achète plus. Elle sort d'avoir, les abeilles sont là, elle reste tranquille. Elle s'occupe de son jardin le soir. Un jour, elle sait des abeilles sont dedans. Mais là, elle a un beau jardin, elle est contente, elle a plus de légumes. Mais tu sais, ça met tout ton monde en dedans de 3 km heureux.
Ben oui, puis. Puis eux autres, tantôt, tu as mentionné les champs magnétiques. Donc, eux autres, ils utilisent ces champs-là pour retrouver où est-ce que la ruche est.
Non, les champs magnétiques, ça débalance leur système d'orientation.
OK.
Fait que là, mais quand tu as une ruche, puis tu as bien des fruits ou des légumes alentours, ils n'ont pas loin à aller. Quand il faut qu'ils aillent 3 km, puis il y a trop de champs magnétiques, ça débalance leur boussole. Puis là, ils ont de la misère à trouver la ruche.
OK.
Là, c'est pour ça. Fait que le moins tu as de champs magnétiques, mieux que ça.
Donc, c'est un peu comme le contraire des tortues, parce que les tortues, là, on s'en va loin, là.
Ouais.
Les tortues marines, j'avais lu un article sur ça, c'était des scientifiques qui ont trouvé qu'eux autres utilisaient les champs magnétiques pour s'orienter, puis retrouver la plage où est-ce qu'ils sont nés pour pondre d'autres...
Pour pondre d'autres œufs.
D'autres œufs, puis après ça, ils retournent dans la mer, même s'ils sont à 600 km, ils sont capables de relocaliser le champ magnétique de telle place. Fait que
l'abeille, c'est juste le contraire.
Ouais, donc c'est vraiment le contraire. Eux autres, c'est comme, OK, il y a trop de champs magnétiques, je sais plus où.
Pis, c'est ça.
Comme tu as mentionné, s'ils savent plus où est-ce qu'ils sont, puis ils s'écartent de la ruche, malheureusement.
Ils vont juste mourir, là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, aujourd'hui, il y a plus de téléphones cellulaires, il y a plus de tours 5G, d'affaires en main, c'est pas bon pour les abeilles. C'est pour ça, c'est dur. Quelqu'un qui amène les abeilles, puis tu fais qu'ils vont aller loin, avec toutes les ondes, ça les mélange. Fait que, y a ça c'est né. Après les Veromites, je pense que les ondes électromagnétiques, c'est la pire affaire pour les abeilles. Il y en a trop à ce temps.
OK, donc c'est pour ça aussi qu'ils mentionnent qu'il y a de moins en moins d'abeilles, parce que justement, plus de tours magnétiques, de cellulaires, comme tu as mentionné, le 5G, le 4G, le 3G, toutes ces affaires-là qui sont...
Que nous autres, on ne voit pas, eux autres, leur sentent. C'est pour ça que je pense qu'il y a bien des petits apiculteurs qui partent. Fait que là, ils sont tous alentours, les abeilles vont toutes rester alentours, c'est plus facile pour eux autres. Les gros qui vont faire des 3 km tout le temps, s'il y a trop d'ondes, il y a une partie qui vont le faire, mais il y a une partie qui ne le feront pas. Puis des abeilles, il ne faut pas t'en perdre de 30% durant ton été parce que tu vas avoir de la misère, tu n'auras pas de miel, la pollinisation va se faire moins bien. Là tu n'es plus gagné nulle part.
Puis aussi, à penser pour l'hiver.
Ben c'est ça.
Parce que si tu perds 30%, ben ta chaleur que chaque petite bébête émette, parce que oui, chaque personne, chaque animal émet de la chaleur, ben là, dans ta ruche que tu veux garder ta reine à 20 degrés, comme tu as mentionné tantôt, ça se fait moins bien. Fait que là,
c'est ça. Puis si tu as moins d'abeilles pour faire ta réserve de miel l'hiver, ben encore là, ils vont manquer de manger.
Oui.
Parce que si tu as moins d'abeilles qui travaillent à partir du mois de septembre pour faire leur réserve, si tu as 30% moins d'abeilles, ben là, il va avoir moins de manger. Puis moins de manger, ben il va. Si le printemps il est tard, ben, tu vas perdre tout de même des abeilles là. Ils vont faire jusqu'au mois de février, mars, pas de problème. Là, ils vont arriver au mois de mars, oh, plus de manger. Ils se mettent l'année de voir, oh, c'est encore frais, il n'y a rien. Fait que. C'est pas bon.
Puis aussi les printemps que des fois, ils sont les hivers qui sont longs puis les printemps courts. Aussi, ça peut être un gros détriment pour une ruche.
Ben, c'est ça. Mais tu sais, il y a un paquet de facteurs. Tu sais, c'est facile de blâmer juste un.
Mm-hmm.
Mais je pense qu'il y a un paquet de facteurs. C'est pas des gros insectes. Là, ça, là.
Ben non, c'est des
petits... Oui, le nombre d'abeilles il baisse les ondes, mais j'aime ça que beaucoup de petits apiculteurs qui partent. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, ça fait beaucoup de pollinisation régionale. Puis les gros, ben ouais, t'as de la misère, mais il y a des bonnes années, puis d'autres années, c'est moins bon. Donc, j'ai déjà perdu quasiment toutes mes ruches, puis l'année d'après, je les avais toutes. J'ai pas rien perdu.
Donc à chaque année, c'est vraiment l'année est différente selon le temps qu'on a durant.
C'est ça. Il y a deux ans, on a perdu 50%. Fait que là, l'année passée, ma femme a trouvé quelque chose sur Internet. Là. Mm-hmm. On l'a essayé, puis j'ai rien perdu cette année. Fait que garantie qu'au mois d'octobre, le premier manteau s'en va dessus, puis au mois de novembre, quand les frais vont arriver, le deuxième, avec le ça s'en va dessus. Ça va marcher. Si ça marche encore 100 000 $, que tu en perdes 10%, c'est normal. 10 à 15% de ruches que tu perds par année, c'est normal. Mais si, comme l'année prochaine, mettons, je n'en perds pas, ça veut dire que cette méthode-là en marche, moi, continuer avec ça.
Puis, aussi, tu as mentionné que tu avais essayé. Tu avais essayé pas mal toutes les façons de garder tes abeilles puis tout ça. Tu les avais emmenées dans ta maison, j'imagine aussi.
Non, j'avais un walking cooler.
OK.
Je les ai mis dedans, un an. Parfait. J'ai rien perdu. L'année d'après, j'ai tout perdu. Je les ai mis dans ma shed. Ça a marché moyennement. La meilleure méthode jusqu'à ce temps, c'était là dehors, à l'abri du vent, tout le temps face au sud. Fait que le soleil de l'hiver du sud, quand tu l'as, il va fesser de sur ta ruche, ça l'aide aussi. Fait que jusqu'à ce temps, je pense que c'est une des meilleures. Il y a un producteur dans le sud-ouest, il a 5000 ruches, lui, il a un gros walking cooler, il descend sa température à 2 degrés, c'est noir là-dedans, puis c'est sa meilleure manière. Mais il a 5000 ruches.
Ben oui, 5000 ruches, c'est beaucoup différent de...
Moi, j'en ai 8 ou 10, puis lui, il en a 5000, il ne faut pas travailler pareil.
Ben non.
Moi, j'ai été visiter son entreprise, ça marche, il fait de la pollinisation, il fait des productions de ruches, il fait des productions de reines. Mais lui, j'ai vu son walking cooler, là, il y a 5000 ruches là-dedans.
Wow!
Puis lui, il descend en température à 2 degrés, c'est contrôlé, puis il dit, je perds 15%, qui est normal, là. Puis il dit, tout avec ça. Ça fait 30 ans, je pense, qu'il est en affaires. Il faut croire qu'il y a des bons trucs.
Ben oui, puis tous les trucs vont fonctionner différemment pour des personnes parce que chaque terrain est différent aussi.
C'est ça, chaque climat, chaque terrain, chaque légume, fleur que tu as, c'est tout différent. Fait que on a pris un cours le 2 ans, puis il donnait des trucs. En dernier, il dit, ben, try and error, tu sais, essaye, puis qu'est-ce que tu fais pour toi, ça va tout bien marcher 100 000 $, qu'est-ce que le voisin va faire? C'est différent, ça va marcher 100 000 $. Tu t'adaptes avec l'abeille, t'es chanceux. Puis c'est ça. Ben, c'est le fun, puis c'est un challenge. Une partie d'agriculture, c'est ça que c'est. C'est pas un ordinateur, c'est pas un mur. Tu travailles avec la nature, les animaux, mm-hmm. Puis tu peux pas parler à l'abeille, elle te parle pas. Fait, tu t'essayes, puis c'est ça qui est le fun.
Puis tu t'adaptes aussi, comme si vois qu'une année, oh ben j'aurais dû en avoir un petit peu plus selon moi, ben l'année prochaine.
Ouais. On l'a fait l'année passée, notre manier d'hiver, puis ça a marché. Mais là, cette année, en partir du mois de septembre, on va tout refaire. Il faut les faire en homemade, là, ces mm-hmm. affaires-là. On va tout le faire. C'est plus d'ouvrage, mais écoute, si ça marche, puis si on a réussi à trouver le truc pour que nos abeilles passent à travers, parce que c'est 285 $ quand tu achètes un essaim au printemps, là, mm-hmm. c'est 285 $ acheter ça. Ça, tu as juste les abeilles. Tu n'as pas toutes les boîtes, tout le kit. Fait que c'est pas notre avantage de n'acheter tous les ans. Mm-hmm. Si les cas de survivre tous les ans, ben hey, on est gratuit. Puis la deuxième année, tes abeilles sont plus fortes.
Mm-hmm. Parce qu'ils évoluent aussi.
Oui, oui. Tu sais, la reine est plus forte, elle a 2 ans dans le corps, elle est plus habituée. Puis les abeilles alentour, ben, ça vient meilleur. Fait que tu essaies toutes sortes de trucs. Puis comme je te dis, c'est ça qui est le fun.
Et pour ceux qui veulent se lancer en apiculture, est-ce que tu as un petit truc pour eux pour débuter?
Commence tranquillement, une ruche à la fois, puis sois patient. Tu peux être chanceux la première année, ça va être super fun. La fille que j'ai partie, elle a pris 2 ruches. Une ruche qui a fait super bien, puis l'autre, elle a quasiment pas de miel.
OK.
Puis ils viennent de la même place. Là, j'ai dit, gars, c'est la reine. Elle a sorti sa reine de dedans, elle était trop faible, elle a rentré une autre reine. Là, elle recommençait, son dessin commençait à être plus fort. Mais non, c'est commence avec une ruche, puis sois patient, puis si t'es nerveux, va pas là-dedans. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Si quelqu'un, il y a du monde qui sont nerveux, puis c'est correct, va pas dans les abeilles. Puis si t'es pas nerveux, puis il fait soleil, vas-y. Si c'est une journée comme aujourd'hui, nuageux, pluvieux, va pas dans les abeilles. Ça, c'est le numéro 1. Sinon, tu vas l'apprendre de la manière dure.
Ceci était la première partie de Go FM et dans le pré avec Michel Dignard. Écoutez le prochain épisode pour la suite. Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.